Mais reprenons notre histoire. Au XVIIIe siècle, la lutte entre Anglais, Français et Espagnols pour contrôler l'Amérique du Nord fait rage. Les Espagnols remontent depuis l'Amérique du Sud et contrôlent progressivement un ensemble de territoires qui correspond à peu près à l'actuel Texas. Les Français s'installent dans le golfe du fleuve Saint-Laurent au nord, remontent le fleuve Louisiane au sud et contrôlent une part encore plus grande des futurs États-Unis d'Amérique. Entre les deux se trouvent les Anglais et leur Nouvelle-Angleterre. Certes, ils savent moins bien faire la cuisine que les Français, sont un peu moins passionnés en amour et pire que tout, ils dansent bien moins bien le menuet. Mais ils ont une chance énorme. En Angleterre, leur roi, à cause de quelques petits problèmes de religion, les a invités à partir. Et en plus, ils se trouvent en Amérique, pile à l'endroit où il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. C'est pourquoi l'émigration vers ces nouveaux territoires sera si forte. Vers 1750, alors que les colonies françaises accueillent tout juste 60 000 personnes, les colonies de Nouvelle-Angleterre comptabilisent plus de 2 millions d'habitants. Cette supériorité numérique leur conféra une victoire écrasante lorsqu'ils attaqueront les possessions coloniales françaises en 1763, puis lors de la guerre d'indépendance en 1787. Durant tout ce siècle, la musique accompagne la progression des colons anglais et en premier lieu, le chant d'église. Animé par la volonté de placer ces terres nouvelles sous la bénédiction du Seigneur, les colons cherchent à améliorer la qualité musicale des offices religieux. Pour cela, ils créent des écoles de chant associées aux paroisses. Dans ces écoles, on apprend comment lire des notations musicales de plus en plus complexes, plutôt que de tout faire à l'oreille, de père en fils, selon la tradition de l'Old Way of Singing. Cette nouvelle manière de chanter est appelée « regular singing », ou en français, le chant régulé. Son adoption ne s'est pas faite sans difficulté, car les responsables religieux craignaient que l'écriture musicale soit utilisée pour une finalité autre que la musique d'église. Mais elle s'est imposée peu à peu et a permis un véritable essor des chœurs d'église grâce à sa précision et à l'autonomie qu'elle procure à ceux qui la pratiquent. Les écoles de chant et les chœurs se développent très vite entre 1720 et 1800. Pourtant, les musiciens américains associés aux paroisses restent très majoritairement des amateurs, des personnes exerçant une autre activité et pratiquant la musique par simple amour, sans connaissance approfondie. C'est pourquoi la première composition imprimée et diffusée sur le territoire américain est loin d'être parfaite, bien qu'écrite avec une bonne volonté évidente. Ainsi, Sherburne de Daniel Reed, premier tube musical de l'histoire des États-Unis, publié en 1785, transcrit très bien l'énergie des fidèles assimilés à des bergers, à la vue du Seigneur, mais au prix d'une grande rudesse de l'harmonie et d'une musique, somme toute, assez plate, comparée à ce que compose à la même époque en Europe Mozart ou les fils de Bach.